Paris 4h, en temps universel 6h à Rome. Une nouvelle demi-heure d'information avec vous, Pierre Boudias, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour à toutes et à tous. Qui pour remplacer le pape François à la tête de l'église catholique après les funérailles du souverain pontife hier? Les regards se tournent vers un futur conclave sur la place Saint-Pierre. Ils étaient nombreux à s'interroger sur l'identité de son successeur. Dernier meeting de campagne au Canada, la veille des législatives. Les candidats ont une dernière fois tenté de convaincre les électeurs. Le libéral Mark Carney s'est une nouvelle fois posé comme meilleur rempart face à Donald Trump. Le président américain qui fait malgré lui redémarrer le tourisme au Groenland, le territoire autonome danois voit les visiteurs affluer depuis que le locataire de la Maison Blanche entend s'approprier le territoire. Reportage à Nouk dans cette édition. Et puis Meta lourdement sanctionné par la justice nigériane, la firme américaine écope d'une amende de 220 millions de dollars. La société mère de Facebook punie pour n'avoir pas protégé les données privées de ses utilisateurs. Une niche de marbre griffée de l'inscription Franciscus, la dernière demeure du pape François en la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Elle doit ouvrir au public ce dimanche pour permettre aux fidèles de se recueillir sur sa tombe. Hier, ils étaient 400 000 à suivre la cérémonie des funérailles puis la procession dans les rues de la capitale italienne. Des fidèles catholiques qui s'interrogent déjà sur le choix du futur pape. Nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Jeanne Elcoury ont rencontré de jeunes Français sur place.
Les funérailles du pape sont terminées, les fidèles se demandent déjà qui lui succédera. Beaucoup parmi les jeunes présents aux obsèques appréciaient François pour son humanité, comme Laura.
Il voudrait faire progresser ses valeurs, ses principes de respect de l'autre et de l'accueil de tout le monde et de la charité entre tous.
Blanca, venue de Brest, voudrait que le futur pape continue le travail d'ouverture qu'avait entamé François sur les questions sociétales.
Je pense que le pape François, il a jeté des bases un petit peu, en tout cas pour tout ce qui est ouverture un petit peu d'esprit de l'Église, si on peut dire, avec notamment la bénédiction des couples homosexuels. Et je trouve que c'est une première étape pour l'Église un petit peu. Je pense que c'est un petit peu la direction que la communauté prend. Et donc j'espère que le pape qui prendra son succès peut-être continuera à construire sur ce que le pape Francis a commencé.
Elsa, elle, est plus réservée sur le choix du futur pape. Elle s'en remet au conclave des cardinaux chargés de son élection.
Le conclave va bientôt avoir lieu. Là, on voit pas mal de débats entre choisir un pape plus traditionnaliste, qui serait pour certains un retour en arrière, ou un pape plus progressif, qui continuerait peut-être sur la lignée qu'avait le pape François. C'est aussi des questions que nous, on se pose et qui nous questionnent. Donc on a hâte de voir à quoi aboutira le conclave.
Le conclave qui doit aboutir au choix du futur pape devrait démarrer dans une dizaine de jours. Muriel Paradon, Jeanne Elcoury, Rome, RFI.
Et l'autre image forte du jour, elle a été prise en marge de ses funérailles, c'est celle de Donald Trump en tête à tête avec Volodymyr Zelensky dans la basilique Saint-Pierre. Discussion à l'issue desquelles le président américain a remis en cause la volonté de Vladimir Poutine d'arrêter la guerre en Europe de l'Est. Sur son réseau Truth Social, il dénonce la poursuite des frappes russes sur les villes et villages ukrainien. La figure de Donald Trump qui aura cristallisé la campagne pour les législatives au Canada, scrutin qui se tient demain, alors que le président américain a une nouvelle fois assuré jeudi qu'il ne plaisantait pas quand il évoquait la nécessité de faire de son voisin du Nord le 51e État américain. Les candidats, dont l'actuel Premier ministre, le libéral Mark Carney, qui fait la course en tête, tenaient hier leur dernier meeting. Correspondance de Nafi Alibert.
Le chef libéral Mark Carney l'a martelé jusqu'au bout de sa campagne. Il est le choix évident pour faire face à Donald Trump. Lui, l'économiste de carrière, précieux stratège en ces temps de guerre commerciale. Il a multiplié hier les arrêts en Ontario, dans ces circonscriptions charnières qui oscillent entre libéraux et conservateurs, avant de terminer son marathon à Windsor, cœur de l'industrie automobile, frappé par les tarifs américains. Pendant ce temps, Pierre Poilievre, son adversaire conservateur, a tenté de gagner des appuis en Colombie-Britannique, mais il a surtout axé sa stratégie de fin de campagne sur ses bastions conservateurs, notamment en Saskatchewan. Misant sur son opposition ferme au quatrième mandat libéral, il peine toutefois à convaincre sur sa capacité à affronter Donald Trump, qu'il a d'ailleurs évité de critiquer de front pour ménager sa base. Il tiendra son dernier grand rassemblement à Carleton, son fief en Ontario. Invincible depuis 20 ans, il doit désormais y sauver son siège, menacé par la percée libérale jusque dans sa propre circonscription. Près de la moitié des électeurs y ont déjà voté par anticipation, un record rendant chaque heure restante décisive. Nafia Liber, Montréal, RFI.
Le Canada qui n'est pas le seul territoire que Donald Trump, sur lequel Donald Trump veut faire main basse, le président américain répète à l'envi son intention de s'emparer du Groenland. Des déclarations vues comme une menace par une partie des Groenlandais qui ont manifesté le mois dernier pour rappeler que leur île n'est pas à vendre ni à conquérir, mais le fait que les projecteurs soient braqués sur ce territoire autonome du Danemark, aussi grand que la République démocratique du Congo, pourrait aussi profiter au tourisme, un secteur en plein essor. Reportage de notre envoyé spécial à Nuuk, la capitale du Groenland, Justine Fontaine.
Depuis novembre, les touristes atterrissent directement à Nuuk sur la toute nouvelle piste construite pour accueillir des vols internationaux. Le nombre de visiteurs a augmenté de près de 50% depuis 2018 et plusieurs hôtels ont été construits ces dernières années dans la capitale.
À droite ici, il y a l'Hôtel Express, ça c'est un nouveau hôtel. Derrière ça, il y a des Aurora, ça c'est nouveau aussi.
Christian Keltsen, le directeur du patronat groenlandais, nous reçoit au cinquième étage d'un immeuble avec vue sur le centre-ville.
Pour l'été 2025, nous avons 20% de plus de réservations que la même temps l'année passée.
À quelques centaines de mètres des hôtels modernes, en contrebas du centre historique, une poignée de touristes prennent des photos devant de grands blocs de glace qui dérivent dans le fjord.
Élise de Montréal.
Si elle est ici, c'est un peu grâce à Trump.
Je suis venue ici par solidarité, puisque nous, au Canada, on a le même sens de menace de la part des États-Unis. Ça a changé mes plans de vacances, disons.
Vous aviez prévu d'aller où?
En Jamaïque.
Le soleil de Nuuk ne chauffe pas autant qu'en Jamaïque, mais ici, Élise a presque pour elle toute seule un paysage de carte postale, avant le retour le mois prochain des bateaux de croisière de luxe, et surtout avant l'ouverture en juin d'une liaison aérienne directe depuis New York. Justine Fontaine, Nuuk, RFI.
Et le Groenland a reçu un peu plus de 130 000 visiteurs en 2023. Le secteur représente environ 8% du PIB de l'île arctique. Puis sachez qu'en plus de ses velléités sur le Canada et le Groenland, Donald Trump a estimé hier que les navires américains devaient désormais pouvoir emprunter gratuitement les canaux de Panama et de Suez, des corridors commerciaux cruciaux sur lesquels il assure avoir demandé à son secrétaire d'État de se pencher. Un mot de l'actualité en Palestine où le président de l'autorité palestinienne prépare sa succession, Mahmoud Abbas, 89 ans, a nommé hier Hussein Al-Sher à la vice-présidence de l'Organisation de la Libération de la Palestine, organisation qui regroupe la majorité des mouvements palestiniens sans le Hamas. À 64 ans, ce dernier a passé plus de 10 ans dans les prisons israéliennes à la fin des années 70. Il est également le chef du département des négociations de l'OLP. RFI, il est 5h07 à Abuja. Après l'Union Européenne, c'est au Nigeria de sanctionner Meta. Un tribunal nigérian vient de rejeter l'appel de l'entreprise américaine contre une amende qui lui a été infligée l'année dernière. 220 millions de dollars, c'est la somme que devra payer le groupe californien pour de nombreuses violations de données personnelles de ses utilisateurs. Les détails avec Agnieszka Kumor.
L'amende de 220 millions de dollars a été infligée à la société mère de Facebook et de WhatsApp par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs pour de nombreuses violations de données personnelles. Meta a ainsi été jugée coupable de pratiques discriminatoire, mais aussi d'abus de position dominante sur le marché pour avoir partagé les données de Nigérians sans leur autorisation préalable et pour avoir privé ses utilisateurs du droit de déterminer comment leurs données devaient être utilisées. Les médias sociaux tels que WhatsApp, Facebook ou encore Instagram sont les plus populaires au Nigeria. Ces plateformes font pourtant régulièrement l'objet de sanctions financières. En avril, Apple et Meta ont écopé de plusieurs millions d'euros d'amende de la Commission européenne pour des infractions à la concurrence. Meta devra notamment payer 200 millions d'euros pour avoir enfreint le règlement européen encadrant l'usage des données personnelles.
Agnieszka Kumor en France et en attendant le congrès des socialistes qui s'annonce houleux. Les écologistes tenaient leur grand-messe ce samedi. L'occasion pour la patronne des Verts, Marine Tondelier, de fixer quelques objectifs. Tout d'abord, refaire émerger les questions environnementales malmenées par les difficultés économiques, les tensions géopolitiques et le discours anticlimat de nombreux dirigeants mondiaux, mais aussi de plaider pour davantage d'union à gauche avec des résultats mitigés. Reportage à Pantin, en région parisienne, d'Aurélien Devernois.
Notre société est somnambule.
Il faut donc la réveiller, selon Marine Tondelier, et stimuler au passage l'écologiste qui, selon elle, sommeille dans chaque Français. Fraîchement réélue à la tête de son parti, la secrétaire nationale appelle donc à l'offensive pour remettre le climat dans tous les des esprits.
Alors, préparez-vous, l'écologie contre-attaque.
Davantage d'échanges avec les citoyens, d'écoute, mais aussi une évidence.
Face à la menace existentielle, notre devoir de mémoire et notre devoir d'espoir nous hurlent la même exigence. L'unité de la gauche, de toute la gauche, et en son cœur, l'écologie.
Sauf que le chemin semble ardu, aucune figure majeure de la gauche n'a fait le déplacement, et la méthode de Marine Tondelier pour arriver à un candidat commun en 2027, une primaire des territoires, issue de débats visant alternativement urbains, ruraux ou montagnards, laisse dubitatif au sein même de son parti, Karima Deli, ancienne eurodéputée.
Je n'arrive pas bien avoir ce qu'on appelle par une primaire des territoires. L'urgence, c'est le programme.
Comme le résume la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, Cyrielle Chatelain.
C'est pas une bataille de com', c'est une bataille politique.
Charge donc aux écologistes de faire des propositions qui parlent aux Français et les mobilisent, car il y a urgence. Ils ont appris en plein congrès que plus d'un demi-milliard d'euros de crédits destinés à l'écologie venaient d'être annulés par le gouvernement.
Aurélien Devernois. La France, où les amoureux du livre célébraient hier la fête des librairies indépendantes. Plus de 700 librairies francophones ont participé à cette 27e édition dans le monde. L'occasion pour ces petits commerces du livre de rappeler, eh bien, tout simplement qu'ils existent. Car face à des géants comme Amazon, la Fnac ou d'autres supermarchés, les librairies, elles, génèrent seulement 1% du chiffre d'affaires du secteur en moyenne. Sarah Yasmine Ziani, vous êtes allée dans l'une d'entre elles, à la librairie L'Instant, à Paris.
Du parquet qui craque sous les pieds, quelques fauteuils et des livres bien rangés. Dans ce petit cocon littéraire de l'Est parisien, on peut souvent trouver Pega. Elle habite juste à côté.
C'est des lieux de vie qui sont importants, il y a pas mal de vie de quartier, donc c'est bien d'avoir des commerces comme ça.
Elle a pris l'habitude de commander ses livres ici, plutôt que sur Internet.
Ils préviennent par SMS, ça arrive direct et ça soutient les commerces, surtout quand on aime bien ce qu'ils proposent et l'ambiance.
Pega repart avec un livre et une rose aussi.
Et ça, c'est une rose choisie.
Deux cadeaux à l'occasion de cette journée spéciale, une journée qui vise à rappeler l'importance de ces lieux d'échange.
Des lieux où on est un peu hors du temps.
Sandrine Babu, gérante de la librairie.
Sur une plateforme, vous allez avoir les meilleures ventes, ou si vous avez lu ceci, vous aimerez cela, mais fait par des robots, a priori. Donc nous, on n'est pas des robots. Nous, on peut apporter un éclairage en fonction de ce qu'a lu la personne, lui donner envie de lire un auteur auquel elle n'aurait jamais pensé.
Et face à la concurrence des plateformes en ligne et des grandes enseignes, difficile parfois de s'en sortir financièrement.
C'est une activité les moins rentable, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé toutes nos charges, on ne fait pas de bénéfices en moyenne, enfin la marge elle est très très faible.
Selon une récente étude du Centre National du Livre, les Français citent désormais les grandes surfaces avant les librairies comme lieu d'achat.
Merci beaucoup.
Et merci à vous Sarah Yasmine Ziani. Il est 4h12 en temps universel sur RFI.
Pierre Boudias.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 4h30. Comme tous les dimanches, nous parlerons défense avec Franck Alexandre, la marine française à la conquête des fonds marins. C'est à suivre dans moins de 5 minutes. Les fleurs, symbole éternel des combats politiques. Alors que le Portugal a célébré le 51e anniversaire de la révolution des œillets, c'est dans ta nature avec Florent Guignard reviendra sur la puissance des fleurs dans les combats politiques. Et puis nous retrouverons Corinne Manjou dans Vivre ailleurs, direction la Suède ce dimanche. Merci d'écouter RFI. Il est désormais 4h13. La foire de Canton, nous en prenons la direction, un salon professionnel réunissant des milliers d'exposants et de visiteurs a ouvert ses portes dans le sud de la Chine avec en toile de fond la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Cette édition réunit 31 000 exposants, presque tous orientés vers le marché de l'exportation. La première semaine de la foire est consacrée aux produits et machines industrielles, à l'électroménager et produits électroniques, aux véhicules et aux BTP. Les taxes douanières sont devenues un sujet sensible pour tous ces exportateurs qui cherchent déjà des alternatives au marché américain. Le reportage de Cléa Broderst.
Parmi les milliers de stands de produits industriels qui offrent les promesses de nombreux échanges à venir, Wang Lian, qui exporte des onduleurs solaires, nous raconte avoir vu un changement d'attitude de la part de ses clients américains.
Cela a clairement un impact, y compris sur nos clients. Ils ne viennent même plus chercher leurs marchandises. Les produits sont prêts, mais ils refusent de les prendre et bien sûr, ils nous demandent de baisser nos prix.
Aujourd'hui, dit-elle, il s'agit d'avoir le regard tourné ailleurs, notamment vers l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe.
Oui, nous devons absolument nous développer sur d'autres marchés. Nous ne pouvons pas nous accrocher uniquement aux États-Unis. Si les États-Unis ne sont pas favorables à notre entreprise, nous devons bien sûr envisager d'autres options, n'est-ce pas ?
Lily, qui exporte, elle, des câbles électriques, souhaite que les droits de douane soient simplement supprimés, car cela ne profite à personne.
Certains nouveaux clients américains nous ont dit qu'ils cherchaient des usines en dehors de la Chine. C'est ça la situation actuelle. Les États-Unis n'y gagnent rien. Ce que nous faisons en Chine n'est qu'une légitime défense. Ils ont fait le premier pas et nous ne faisons que riposter. Je soutiens sans réserve la décision de la Chine.
Les acheteurs, eux aussi, s'interrogent, tentent de trouver leur compte. OJ, un jeune entrepreneur canadien, nous dit que s'il fallait choisir entre faire affaire avec les États-Unis ou la Chine, la question ne se posait pas.
À l'heure actuelle, en tant qu'homme d'affaires, je vais continuer à travailler avec la Chine, car c'est un endroit très très diversifié, très beau. Il y a tellement de technologies, ça se développe chaque jour.
Craig, un acheteur australien, explique que même s'il ne ressent pas directement le poids des taxes pour le moment, il a des inquiétudes quant à l'avenir. Mais il souligne aussi qu'il va tenter de tirer parti de cette situation.
C'est un sujet brûlant. Je vais faire pression sur eux pour obtenir des prix plus bas. Ça reste notre travail. Nous allons donc chercher à obtenir des coûts de production moins élevés de la part de la Chine dès maintenant.
Faute d'accord trouvé le plus rapidement possible, tout le monde ici se prépare à mettre des alternatives en place, tout en gardant les yeux rivés sur les échanges entre les deux puissances économiques. Claire Broderst, Shuxian Yuang, Guangzhou, RFI.
RFI, il est 4h16 en temps universel. Et parlons défense, alors que Donald Trump entend faciliter l'exploitation des fonds marins. La marine française entend également devenir une référence dans la maîtrise des profondeurs, des espaces où reposent en effet des câbles stratégiques pour les maîtriser. Les forces navales françaises développent depuis 3 ans une capacité souveraine pour agir dans la profondeur des océans. Ligne de défense avec Franck Alexandre.
D'une importance majeure, les grands fonds marins sont pourtant moins connus que la surface de la Lune. Et pour la marine nationale, le réveil a sonné en 2007 quand un sous-marin russe a réussi l'exploit de déposer à l'aplomb du pôle Nord, par 4000 mètres de fond, un drapeau anti-titane aux couleurs de la Fédération de Russie. Un véritable signalement stratégique, se souvient le contre-amiral Cédric Chetaille, coordinateur central pour la maîtrise des fonds marins.
Un message qu'il voulait nous dire, c'est un espace commun, mais en fait c'est un espace qui appartient à ceux qui sont capables d'agir et d'intervenir à cet endroit-là. Donc moi je suis capable de le faire, vous, vous n'êtes pas encore capable de le faire. Aujourd'hui on est en train de rattraper ce retard et on sera à très court terme capable de faire le même type de mission.
Pour accéder au grand fond, la Marine nationale peut déjà compter sur plusieurs robots autonomes pouvant descendre jusqu'à 2000 mètres et à court terme l'objectif c'est 6000 mètres.
6000 mètres ça correspond à une ambition, à la vocation mondiale de la marine française. On déploie nos forces partout dans le monde. On est capable d'atteindre 97% du plancher des océans quand on est capable d'aller à 6000 mètres de fond. Et quand on a la volonté avec un robot d'être capable de ramasser, de sectionner, de rassembler, de nouer, d'agir, il faut maintenir ce robot à quelques dizaines de centimètres de sa cible.
Nature, des sédiments, variations, du champ magnétique, cartographie, autant d'éléments qu'il faut maîtriser. Et la vitesse des manœuvres sous l'eau est également un élément clé, contre-amiral Chetaille.
Le milieu sous-marin ne permet pas une communication continue avec l'engin. Après la mission, quand on récupère le drone, il faut tout décharger rapidement pour pouvoir réorienter la mission suivante. Et c'est ce cycle de observation par le drone, exploitation de la mission, décision et orientation de la mission suivante qu'il faut mener le plus rapidement possible pour obtenir un cycle qui soit supérieur à celui de nos adversaires.
Câble de télécommunication sectionné accidentellement ou volontairement, la guerre hybride se joue aussi dans les grandes profondeurs et dans le collimateur des marines de l'OTAN. Il y a le navire espion russe Yantar, un bâtiment souvent présent le long des côtes européennes.
Le navire russe Yantar, c'est un navire très intéressant parce que c'est un des très rares navires au monde qui est spécialisé et qui est très moderne pour mettre en œuvre des capteurs et des engins en toute discrétion qui vont aller très profond. C'est un navire qu'on surveille, c'est un navire qu'on traque pour l'empêcher de nuire à nos intérêts et de restreindre ce qu'on appelle notre liberté de manœuvre. Ça veut dire qu'on ne veut pas que l'usage potentiel des fonds marins à partir d'un navire comme le Yantar ne nous contraigne.
La maîtrise des grandes profondeurs s'impose, en particulier pour la France qui possède le deuxième domaine maritime mondial. C'est aussi un défi technologique qui, à ce jour, n'est à la portée que de quelques marines dans le monde.
La ligne de défense avec Franck Alexandre à retrouver en intégralité sur RFI.fr. Allez, après la guerre, faisons la paix. Maintenant, sur RFI, le Portugal a célébré avant-hier le 51e anniversaire de la chute de la dictature provoquée par la révolution des œillets de tout temps. Les fleurs ont été choisies par les hommes comme symbole politique. C'est dans ta nature avec Florent Guignard.
La photo a fait le tour du monde. La fille à la fleur, une photo de Marc Ribou lors d'une manifestation aux États-Unis contre la guerre du Vietnam. Une lycéenne oppose aux baïonnettes des soldats, une fleur de chrysanthème. C'est le flower power, le pouvoir des fleurs, le slogan du mouvement hippie des années 60 et 70. Au Portugal, en avril 74, c'est la saison des œillets et une fleuriste en offre à des militaires en chemin pour renverser la dictature. La fleur au fusil, c'est la révolution des œillets. Six ans plus tard, il y a aussi la révolution du jasmin. Au pays du jasmin, la Tunisie, Ben Ali s'enfuit. Son parfum entêtant, le parfum du jasmin, pas celui de Ben Ali, gagne les pays de la région pour donner les printemps arabes. La plupart des plantes fleurissent au printemps. L'emblème des Nations Unies, ce n'est pas un, mais deux rameaux d'olivier, le symbole de la paix. Mais depuis 1945, l'olivier a perdu beaucoup de ses feuilles. Avant cela, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le coquelicot et le bleuet, qui poussent sur des sols ingrats, sont les premiers à fleurir sur les champs de bataille, champs de ruines de l'humanité. Alors pour se souvenir de la barbarie, les Anglais choisissent les premiers, le coquelicot rouge sang. Les Français, le bleuet, bleu comme l'uniforme des soldats morts pour la France. Les rois de France, eux, avaient comme emblème une fleur de lys. Bon, c'était en réalité un iris, depuis que Clovis fut sauvé par une biche dans un champ d'iris. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. La rose a donné son nom à une guerre, la guerre des deux roses, l'une blanche et l'autre rouge, au XVe siècle en Angleterre. C'est un mariage qui met fin à la guerre et l'Angleterre se choisit comme emblème une rose rouge au cœur blanc.
Un homme, une rose à la main.
La rose au poing, c'est l'emblème du Parti Socialiste en France, choisi par François Mitterrand 10 ans avant son élection.
Alors une rose, c'est pas facile, on s'y écorche les doigts, mais c'est beau.
Ce soir, quelque chose a changé, l'air semble plus léger. C'est un infinissable.
Allez, merci Florent Guignard, on se quitte avec Regarde de Barbara. Allez, il est 6h22 à Stockholm, en la Suède qui a besoin de travailleurs expatriés pour pallier la pénurie de main-d'œuvre dans divers secteurs. Bana Tiubu, originaire du Sénégal et responsable du service gouvernemental de l'emploi à Kalmar, au bord de la mer Baltique, dans le sud-est du pays. Elle vient de participer à Paris à une rencontre sur les possibilités d'emploi dans les pays scandinaves. Elle est l'invitée de Vivre ailleurs avec Corinne Mandjou.
La Suède est un pays qui offre beaucoup d'opportunités de travail. Nous recherchons beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans le nord de la Suède, on a des industries qui se sont installées là-bas et qui recherchent des compétences dans l'énergie renouvelable, par exemple. Et on cherche beaucoup d'ingénieurs. Et ça a créé une sorte d'effet domino. On a beaucoup d'ingénieurs qui vont dans le nord, ils viennent en famille. Du coup, on a besoin d'enseignants pour les enfants, on a besoin de médecins. Donc, on a besoin de pas mal de compétences dans toute la Suède. Donc, depuis ce matin, voilà, nous avons parlé avec des gens qui sont venus, qui sont curieux de savoir quelles sont les compétences que nous cherchons et surtout quelles sont les conditions de travail pour venir en Suède.
Pour un étranger, un Français qui veut venir s'établir en Suède pour travailler, quelles sont les conditions justement?
Déjà, si on est français, donc on est dans l'Union européenne, on n'a pas besoin de permis de travail, donc vous pouvez venir en Suède. Mais il est important d'avoir quand même une compétence que l'on cherche en Suède. Comme j'ai dit, les ingénieurs, personnel médical, ICT, l'éthique, technique de l'information et de la communication, enseignants, vétérinaires, chefs de cuisine, sont les compétences dont on a besoin. Et dans certains secteurs, l'anglais, c'est suffisant. Par exemple, si vous êtes ingénieur ou si vous travaillez comme chef de cuisine ou ICT, l'anglais, c'est suffisant. Par contre, si vous voulez travailler comme enseignant ou personnel médical, vous aurez besoin du suédois.
Mais justement, est-ce que le suédois, c'est pas un frein pour ceux qui veulent venir travailler là-bas? Combien de temps faut-il pour apprendre la langue?
bon, ça dépend. Par exemple, le secteur médical, il faut parler le suédois. Mais la pénurie de compétences est tellement énorme que les hôpitaux, les municipalités font tout justement pour aider les gens à apprendre le suédois. Dans ma région, je sais que l'hôpital a une collaboration avec une école qui justement aide les expatriés à apprendre le suédois adapté au personnel médical. Et ça, c'est la même chose pour les municipalités. Par exemple, quand ils cherchent des enseignants, ils aident aussi les candidats à apprendre le suédois. Voilà.
Vous êtes vous-même d'origine sénégalaise. Comment vous êtes arrivée en Suède?
Bon, je suis arrivée en Suède en 2000 pour une formation. Et puis voilà, je suis retournée là-bas. Donc ça fait plus de 23 ans que je suis en Suède maintenant.
Qu'est-ce qui vous a plu en Suède?
J'aime bien le fait que ça soit un pays où on a l'égalité. Égalité homme-femme, très important. Et puis, il y a aussi pas mal d'opportunités. Et les métiers artisanaux comme les mécaniciens, les carpenters, charpentiers, tout
menuisier.
Ça. Menuisiers, plombiers. Ça, c'est des métiers qui ont de la valeur. On les valorise dans nos pays. Et c'est des gens qui gagnent très bien leur vie. Contrairement à ce qui se passe dans nos pays. Travailler comme mécanicien parce que vous n'avez pas réussi dans vos études. Voilà. Les politiques veulent justement qu'on donne plus d'opportunités aux formations professionnelles. Par exemple, trouver des soudeurs, des CNC opérateurs, c'est très difficile. Et donc, il y a pas mal d'opportunités. Si vous avez ce genre de formation, il vous est facile de trouver du travail.
Natubo, elle était au micro de Corinne Manjou. Allez, comme chaque dimanche matin, nous vous proposons d'écouter un extrait de l'émission L'Atelier des médias. Cette semaine, direction l'Ukraine, au mois de janvier, en compagnie d'autres journalistes français, Arnaud Contrera a participé à un voyage de presse qui l'a conduit à Lviv, Kiev, Irpin ou encore Boutcha. L'idée pour lui et pour l'Atelier des médias de RFI était de comprendre pourquoi l'Ukraine, un pays en guerre, organise des voyages de presse pour les journalistes français. Écoutons à ce propos, il y a Adia Dek, responsable du programme au Lviv Media Forum, une organisation de soutien aux médias et de développement des médias basés en Ukraine. C'est l'un d'eux qui a organisé ce voyage.
C'est vraiment une sorte de voyage touristique avec un sens plus profond. Donc vous découvrirez un peu de culture, un peu d'éducation, quelques situations en première ligne. Mais je pense que l'objectif principal est que les journalistes étrangers aient une meilleure idée du pays et qu'ils aient une meilleure connaissance des gens d'ici et qu'ils comprennent leur état d'esprit. Je sais que beaucoup de gens ont peur d'aller en Ukraine. Ils s'imaginent que c'est vraiment dangereux. Et c'est dangereux. Vous ne savez jamais quand un drone pourrait frapper le bâtiment où vous vous trouvez. Mais dans la vie de tous les jours, vous disposez toujours de toutes les choses que vous appréciez en Europe. Vous allez au travail tous les jours, vous prenez votre café tous les jours, mais il y a un plus grand risque de se faire bombarder qu'en Europe. Je ne pense pas que la question de savoir si le journaliste invité reviendra en Ukraine ou pas est vraiment d'importance. Mais il s'agit davantage d'une question de soft power et de diplomatie. Tous ces gens continueront très probablement à travailler dans le journalisme, à différents postes. Et ils connaîtront le sujet de l'Ukraine. Ils comprendront mieux ce sujet. C'est donc important pour nous d'avoir en France des gens qui comprennent l'Ukraine.
L'Atelier des médias, c'est donc à retrouver sur RFI, voyage Ukraine, voyage de presse en zone de guerre. C'est un reportage d'Anno Contreras, il sera écouté à 11h10 TU sur nos antennes et dès maintenant en podcast, par exemple sur RFI Pure Radio. Voilà, c'est déjà la fin de cette demi-heure d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un peu plus d'une minute pour un point complet sur l'actualité africaine.
BPM. Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Alors que sort Yalla Bye Bye, son premier album, l'artiste helvético-marocain Sami Galbi est dans BPM La Rencontre.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Jamais le Bénin n'avait connu d'attaque terroriste aussi meurtrière. 54 militaires tués dans le nord du pays. Tôt ou tard, nous viendrons à bout de ces criminels, affirme le gouvernement. Quelle doit être la riposte? Comment relancer la coopération avec les pays voisins? On en parle.
Appel sur l'actualité, 33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone lundi, à partir de 8h10 TU.